L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
» 17h30, 23 décembre de l'an 1924. Un vent glacial souffle dans les rues de Nome, petit village inuit à l'extrême ouest de l'Alaska. Personne ne sort pendant pareil. Et seules les lumières qui brillent aux fenêtres signalent que ces lieux sont habités. Nous sommes à 350 km de la Sibérie. C'est ici, dans ces territoires sauvages, que se déroule notre histoire. C'est la veille de Noël. Les habitants ont en tête la fête du lendemain. Dans ces rudes conditions de vie, la perspective d'un moment joyeux passé en famille réchauffe les cœurs. Mais dans un des foyers inuit, une jeune enfant de 6 ans est malade. Elle se plaint d'un mal de gorge. Bon, personne n'est surpris. Nous sommes en hiver et le froid arctique, qui, dans cette région, dure 7 mois, donne l'impression qu'il n'en finira jamais. 17h30, l'heure H de mon histoire. Le docteur Curtis Welsh enfile sa chapka et son manteau en peau de caribou pour braver le blizzard qui siffle. Il doit se rendre au chevet de cet enfant malade. Rien d'alarmant en apparence, mais malgré tout, il préfère l'examiner. Les symptômes de la petite fille et l'absence d'autres malades dans son entourage orientent le médecin vers une angine. Diagnostic crédible et rassurant, mais est-ce le bon diagnostic ? Les enfants décèdent bien plus nombreux dans cet isolement géographique près du cercle polaire que dans les villes proches de toute commodité. Alors, le docteur aimerait consulter un collègue pour lui soumettre sa conclusion, mais il ne peut échanger ses suspicions avec personne ici. Malgré que la petite ville compte quelques milliers d'habitants, il est le seul médecin de Nome. Le seul. Reste l'espoir de ne pas s'être trompé. On est si loin de tout. Et l'hiver, qui impose ces conditions climatiques extrêmes, accentue ce sentiment. Les Esquimaux de Nome vivent sur une presqu'île, en dehors de la ville, dans des cabanes de bois qui ont remplacé les igloos traditionnels. Welsh, le médecin blanc, connaît leur grande pauvreté et il a leur confiance, malgré qu'il ne les soigne que depuis quelques années. Le lendemain, jour de Noël, l'enfant décède. D'une angine ? D'une angine ? C'est possible ? Mais 4 jours plus tard, le docteur constate le décès d'un deuxième enfant, un bébé cette fois. Les symptômes sont identiques et son état de santé s'est dégradé aussi vite que le premier. Personne. Personne n'établit de lien entre les deux morts rapides. Pourtant, Welsh se pose des questions. Il songe à un mal bien plus grave dont il n'ose même pas formuler le nom. Pour être fixé, le médecin demande à la famille inuit l'autorisation d'autopsier l'enfant. La famille refuse. L'enfant est mort et la science ne le rendra pas. Qu'on le laisse reposer en paix. Au début du mois de janvier 1925, 2 autres enfants inuits décèdent. Ils présentaient des symptômes semblables, mal de gorge, fièvre et respiration compliquée. Le diagnostic officiel, mort des suites d'une forte angine, n'a pas changé. Pas encore. Welsh pressent que ce n'est pas ce mal-là qui tue. Il n'a pas de preuves, mais une certitude que son instinct de médecin lui a soufflé. Le 20 janvier, le médecin se rend dans une cabane inuite pour examiner un enfant de 3 ans, très atteint. Dans la pièce unique où vit toute la famille, dans un dénuement qui serre le cœur de Welsh, les regards inquiets sont posés sur lui. Cette fois, il en est sûr. C'est un cas de diphtérie. Ce mal maudit qui fait des ravages terribles là où il s'invite. De retour en ville dans son cabinet, Welsh prévient immédiatement le maire de Nome de son nouveau diagnostic et l'on révise le passé récent. Tous les enfants décédés précédemment ont été victimes de cette bactérie. La nouvelle glace le sang. Une épidémie de diphtérie, en plein hiver, dans un lieu complètement isolé, c'est un scénario d'horreur. À cette époque, le vaccin n'existe pas. Cette maladie des voies respiratoires est hautement contagieuse et nécessite un traitement très spécifique, à base d'antitoxines. Les enfants et les personnes âgées sont les premiers touchés. Forte fièvre, difficulté à respirer. Rapidement, les malades meurent asphyxiés par une membrane qui se forme au fond de leur gorge. Le médecin possède le sérum qui soigne la diphtérie, mais il y a un gros souci. Un très gros souci. Les doses dont il dispose sont toutes périmées depuis 5 ans. Autrement dit, elles sont inutilisables. Et c'est la panique. En 2 jours, les cas se multiplient. Les victimes décèdent dans les 48 heures. Les habitants de Nome se ruent vers l'hôpital. Certains présentent des symptômes. D'autres sont juste malades de peur. Faute d'autres traitements, Curtis Welch décide d'administrer des doses du sérum périmé. Il le teste sur une jeune patiente esquimo. Quelle efficacité peut encore avoir ce traitement? La fillette va-t-elle le supporter? Ce genre d'expérience paraît risqué, mais dans les années 20, les populations inuites sont encore considérées comme des citoyens de seconde zone. La ségrégation raciale est réelle. Si vous êtes inuit, pas question de fréquenter les mêmes restaurants, les mêmes écoles que les blancs. Vous ne pouvez même pas habiter en ville. Mais peu importe votre couleur de peau, on n'arrête pas une épidémie avec quelques doses de sérum périmé. Les morts se suivent. Alors que faire? Bah oui, vraiment, que faire? Vous n'aimeriez pas être ce médecin. Moi non plus. Le sort de Nome repose sur ses épaules. Le 24 janvier, la situation s'est aggravée. 20 cas de diphtérie confirmés et 50 cas soupçonnés. Et surtout, le premier enfant blanc est mort. Ça, c'est l'électrochoc que l'on attendait presque pour que les autorités réagissent vite. Le conseil municipal place la ville sous quarantaine, un terme qui nous parle maintenant. Et Welch envoie un message par télégraphe au gouverneur de l'Alaska. Épidémie de diphtérie inévitable ici, stop. Besoin urgent 1 million d'unités d'antitoxines, stop. Le service postal est la seule forme de transport possible, stop. Il y a environ 3000 blancs dans le district, stop. Cette dernière précision est sans appel. S'il ne s'agissait que d'Inuits, le médecin n'est pas sûr que le gouverneur se mobiliserait aussi vite. Le message de Welch est sans équivoque et la réaction du Conseil national de la santé ne tarde pas. Le 25 janvier, un stock de 300 000 unités d'antitoxines disponibles à l'hôpital d'Anchorage est réquisitionné. Cette quantité ne suffira pas à enrayer l'épidémie, mais elle tombe à point pour la contenir, en attendant que d'autres doses rassemblées sur la côte ouest des États-Unis parviennent aux médecins. Il reste un sérieux problème. Comment transporter le sérum d'Anchorage à Nome? Et si vous pensez que la voie aérienne serait la solution idéale, écoutez ceci. L'avion serait le moyen le plus rapide sur ce point. Vous avez raison. Mais en 1920, l'aviation est encore balbutiante. Le Conseil refuse de s'y risquer. Depuis 1 an, des essais ont déjà été faits dans ce sens, mais le meilleur avion a franchi 420 km par moins 23 degrés, soit moins de la moitié de la distance à parcourir aujourd'hui, 870 km. Et dans les terres polaires, la température moyenne au meilleur de la journée à cette époque de l'année avoisine les moins 35 degrés. On est loin des conditions des essais. À ces températures, le carburant pourrait geler. Les avions des biplans qui datent de la Première Guerre mondiale ont le cockpit ouvert et un système de refroidissement par eau. Le pilote a des lunettes et un compas. Vous seriez monté dans ce type d'engin, vous? Le gouverneur, lui, ne veut pas risquer de perdre la cargaison de sérum et de surcroît de bons aviateurs. Il faut donc trouver une autre solution. À l'ouest, la mer de Bering est gelée. Aucun accès bateau n'est possible. À l'est, ce ne sont que de vastes étendues recouvertes d'une épaisse couche de neige. La situation semble désespérée. À Nome, pendant ce temps, Welch attend impuissant en dénombrant les décès suivants. En acceptant ce poste de médecin dans cette ville isolée, Welch était conscient de la difficulté qu'il aurait à pratiquer son métier. Malgré les conditions, il avait accepté cet engagement par challenge ou simplement pour des raisons personnelles que lui-même n'avait pas formulées. Mais avant cette épidémie, jamais il n'avait nourri d'aussi grandes inquiétudes. Les jours, les heures même, sont maintenant comptés car la bombe, une épidémie de diphtérie, a été amorcée. Le conseil envisage alors une dernière solution. Faire transporter le sérum par ceux qui connaissent parfaitement cet enfer blanc. Les mushers et leurs chiens de traîneau. Le gouverneur de l'Alaska connaît le courage de ses conducteurs d'attelage et il lance un appel. Qui parmi eux accepterait de voyager jour et nuit, de parcourir la distance imposée le plus vite possible sans être payé pour ce service? C'est une mission de miséricorde. Mais le cœur des mushers est grand. Le don de soi n'est pas un vain mot pour ces hommes habitués à exercer leur métier dans des conditions extrêmes. Au total, 20 équipages, hommes et chiens, répondent présents.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H vous raconte l'histoire d'une course folle, contre la montre, engagée en plein hiver arctique pour sauver Nome, une petite ville d'Alaska, atteinte par une épidémie de diphtérie. En ce début d'année 1925, coupés du reste du monde, les malades et leurs médecins Welsh n'ont qu'un seul espoir, que le sérum capable d'enrayer la maladie leur parvienne à temps. Mais la neige et le froid bloquent l'accès à ce lieu isolé au fin fond de la toundra. Il n'y a que les traîneaux qui pourraient le transporter. Le gouverneur de la province a réquisitionné des mushers volontaires et leurs chiens. C'est le relais de leur vie. Mais ont-ils les moyens humains et physiques pour braver ces conditions extrêmes sans faiblir? Le médecin et ses patients ne connaissent pas encore la réponse. Et nous non plus. Un plan précis et minuté du transport du sérum est établi. Un premier tronçon, d'Anchorage à Nenana, sera effectué en train, puis les hommes et leurs chiens prendront le relais le long de la route postale pour relier Nome. Les traîneaux à chiens sont un mode de transport fiable. La question n'est pas de savoir si les chiens sont capables de couvrir cette distance, mais combien de temps cela va-t-il prendre ? Habituellement, le transfert du courrier par des mushers entre Nenana et Nome prend 25 jours. Ils parcourent 45 km par jour et s'arrêtent pour dormir dans des chenils quand l'obscurité tombe. Cette fois, il faudra faire vite, beaucoup plus vite. À Nome, cela fait déjà 6 jours que l'épidémie s'est déclarée. Qui sait quels obstacles viendront barrer la route des mushers ? On ne le devine que trop bien. Tempête de neige, piste introuvable, glace instable. 20 équipages vont se succéder jour et nuit sans interruption dans les étendues sauvages de l'Alaska. Une logistique compliquée car seul le télégraphe permet quelques rares communications. Si l'un des mushers n'arrive pas au rendez-vous, au bout de son tronçon, la chaîne de transmission du sérum sera rompue et la mission échouera. Une course relais comme l'a inventé de Coubertin, version Hitchcock cette fois. Le 27 janvier à 21h, le départ de cette incroyable course relais est donné. Tous les espoirs sont permis, mais tous les doutes aussi. William Shannon, le premier musher, récupère le sérum à la gare de Nenana. L'antitoxine a été versée dans des flacons de verre placés dans des couvertures isolantes. Cet emballage est indispensable car si le sérum vient à geler, il perdra toute efficacité. Or, cette dernière semaine, les températures ont chuté à près de moins 40 degrés en journée. Le paquet contenant l'antitoxine pèse 9 kilos. Shannon l'attache solidement à son traîneau, puis elle s'échiane et démarre. L'obscurité l'absorbe et le silence de la nuit ne dit plus rien de son passage. À l'aube, à l'opposé du point de départ de cette course, le musher Leonard Cepala s'apprête à quitter Nom. Il doit retrouver à la moitié du parcours le dernier des mushers partis à l'est. Il est prévu que les deux hommes se rejoignent là et que Cepala reparte en sens inverse vers Nom, le paquet d'antitoxines chargé sur son traîneau. Cepala et ses chiens forment le meilleur équipage de toute la région. Mais l'aller-retour Nom-Nulato, c'est plus de 700 km. Et couvrir une telle distance, c'est une folie, une pure folie. Cepala entraîne des huskies de Sibérie. Les gens du coin les appellent rats de Sibérie en raison de leur petite taille, mais les huskies sont endurants. Et pour tenir son pari, Cepala compte particulièrement sur Togo, son fidèle chien de tête. Togo a 12 ans, c'est trop vieux pour parcourir cette distance sans repos, chuchotent certains. Ses qualités de meneur exceptionnel et son expérience font de lui un chef d'équipage parfait, clament les autres. Ouais, à voir. De son côté, William Shannon, le premier musher du relais qui fait route vers l'ouest, vient de passer une nuit d'enfer. Dans l'obscurité la plus totale, il a suivi les rives basses du Yukon. Les températures ont chuté à moins 48 degrés. Songez à votre manteau que vous maintenez bien fermé quand le thermomètre descend de quelques degrés sous zéro. Shannon connaît son ennemi mortel dans ces conditions. Il est invisible, changeant, perfide. Si vous le laissez s'infiltrer, vous êtes un mort en suspens. Cet ennemi, c'est le vent. Ses bottes, ses gants, son manteau, Shannon ne laisse pas la plus minuscule ouverture. Mais les chiens, pourtant très endurants et habitués au grand froid, n'ont que leur fourrure pour se protéger. Et quand Shannon arrive au bout de son relais, Callans, le jeune musher de 20 ans qui l'attend, est saisi d'effroi. Face à lui, il voit arriver un équipage qui ne compte plus que 6 chiens, car 3 sont morts durant la nuit. Le colis est intact, le délai était respecté, mais les conditions climatiques sont trop dures pour les chiens. Il n'y a pourtant pas d'autre possibilité. Il faut continuer. En ville, à l'hôpital de Nom, le docteur Welsh compte les nouveaux cas de diphtérie qui se déclarent et il surveille de près la jeune patiente inuite à qui il a administré une dose de sérum périmé. Et c'est une bonne nouvelle. L'antitoxine semble encore faire de l'effet. La fillette se porte mieux. Mais dans les cabanes de bois sur la presqu'île, à l'extérieur de la ville, l'infirmière du docteur qui a pris en charge ces familles inuites isolées n'a pas de sérum, même périmé pour les aider. Quand elle diagnostique de nouveaux enfants atteints, elle n'a de soins pour eux que des paroles réconfortantes. Son empathie apaise, mais la diphtérie n'en a vraiment que faire. Constatant que l'épidémie s'aggrave, le maire de Nom envoie un télégraphe à plusieurs journaux. Le texte est bref, très clair. Une petite ville isolée d'Alaska est victime d'une épidémie de diphtérie. Il n'y a qu'un seul médecin et celui-ci n'a pas le sérum qui pourrait soigner les malades. Des musheurs vont tenter de sauver la ville. Ah, c'est sûr, le sujet est vendeur et crée la sensation. En 2020, nous suivions aux informations l'évolution du nombre de cas Covid. En ce début d'année 1925, les Américains ont désormais les yeux rivés sur la progression du nombre de malades atteints par la diphtérie à Nom. Les citoyens blancs de cette petite ville sont des Américains ordinaires qui un jour ont décidé d'émigrer en Alaska. Cette région fait rêver les aventuriers, ceux qui veulent troquer leur quotidien civilisé contre une vie plus sauvage, plus nature. Ces émigrés sont le symbole de la conquête américaine de nouveaux territoires. Alors, chacun se projette à Nom, ressent la peur de ses habitants, compatit et achète le journal pour s'informer de la situation. Des mushers se mettent en danger pour la grandeur du pays. On les admire, ce sont des héros. Et c'est une bonne affaire pour la presse. Ce qu'aucun journaliste ne rappelle alors, c'est que les virus comme la diphtérie ont été apportés en Alaska par les émigrés blancs. Et les Inuits en payent le prix fort. Variole, coqueluche, chaque vague d'émigration a apporté avec elle de nouvelles maladies. Les épidémies se sont succédées et c'est parmi les Inuits que se compte le plus grand nombre de victimes. Les autochtones présents sur ces terres, bien avant l'arrivée des Américains, n'ont pas eu le temps de développer une résistance adéquate. À Nome, la dernière épidémie remonte à 7 ans. La grippe espagnole, qui a fait plus de 50 millions de morts dans le monde en 1918, avait réussi à se faufiler jusque dans ces contrées isolées. L'homme blanc avait cette fois, là aussi, servi de passeur. Un paradoxe, car dans notre histoire du jour, les mûcheurs qui vont se relayer pour transporter le sérum, au péril de leur vie, sont des descendants esquimaux ou métis. C'est à eux que tient la réussite d'une mission organisée pour soigner un mal importé par les populations blanches immigrées. Originaires des tribus installées tout le long du Yukon, ils font le choix de l'humilité. Garde toujours la tête rentrée entre tes épaules, si tu ne veux pas te la faire couper. Un dicton inuit a parlé. Jouer les fiers héros, c'est pas dans leurs habitudes. Pourtant, en ce mois de janvier 1925, sans ces hommes à la peau tannée, plus aucun espoir de sauver Nome ne serait permis. Et l'on n'est pas dans un épisode de télé-réalité Banquise Sauvage. L'épidémie a débuté il y a 9 jours. Les relais vers l'ouest se succèdent sans encombre jusqu'au 29 janvier. Ce jour-là, le sérum arrive à Ruby, un petit village de mineurs sur le Yukon. C'est là qu'habite Bill McCarthy, le 9e musher. Comme il n'a pas de chien, il n'a pas répondu présent à l'appel, mais un propriétaire d'équipage est venu le titiller. T'as pas envie d'une petite balade de nuit ? Bon, il fallait pas lui demander 2 fois. McCarthy n'a jamais pris la piste sur laquelle il doit s'engager. Le froid est tel qu'il court avec le traîneau pour ne pas geler. Les chiens n'ont pas été nourris car ils courent moins vite, l'estomac rempli. Dans la tempête de neige qui s'est levée, il ne faut pas traîner. Le musher ne leur laisse aucun moment de répit. L'obscurité n'est plus noire mais blanche. On n'y voit rien à quelques mètres. McCarthy, fouetté au visage par des tornades de flocons en furie, doit s'en remettre au sens d'orientation de ses chiens. Il le sait. Quand ceux-ci ont une piste une seule fois, ils s'en souviennent encore des années après. Et ces chiens-là n'oublient jamais. Mais est-ce vraiment des chiens ? L'esprit délirant pris avec ces conditions de course si rudes, certains mûcheurs croient conduire des loups. Un instant de confusion. Encourageant leur équipage à garder une cadence élevée, ils se sont vite souvenus. Jamais un loup n'a tiré de traîneau. 50 kilomètres plus loin, le musher suivant, Edgar Holner, le trappeur, attend. Il transporte d'ordinaire du bois qu'il apporte sur les berges du Yukon pour approvisionner les bateaux à vapeur qui circulent sur le fleuve. Après lui, viendra le relais de son frère. Les chiens continuent, on ne les change pas. Leur estomac est toujours vide. À Bishop Mountain, Charlie Evans a rejoint un refuge près du village au milieu de la nuit. Il est le 12e musher à devoir prendre le relais. Il fait un feu, prépare ses chiens et à 4h du matin, il entend les aboiements de l'équipage précédent qui arrive. Une lettre accompagne le paquet d'antitoxines, avec une recommandation télégraphiée très claire. Chaque fois que c'est possible, réchauffez le sérum pour éviter qu'il ne gèle. Alors, Evans tient un moment le colis au-dessus du feu avant de le charger sur son traîneau. Si le froid enlevait au liquide son efficacité, ce ne serait plus une course folle, mais un vain contre la montre. Or, la température a encore chuté. Il fait 53 degrés en dessous de zéro. Evans sent ses poumons lui brûler chaque fois qu'il inspire de l'air. Il a peur pour son équipage, car par ce froid, on ne fait pas courir les chiens. Alors, il les laisse courir à leur propre rythme, pour leur éviter une dépense d'énergie trop grande qui les mènerait à une mort certaine. L'obstacle le plus dangereux sur le tronçon qu'Evans doit parcourir est une rivière à traverser. Bon, elle est gelée, bien sûr, mais le courant est si puissant qu'il réussit parfois à pousser l'eau à travers la glace. Il faut avancer sur des plaques traîtres qui peuvent se briser. Le musher contourne les trous d'eau visibles et cherche à déceler les failles, les infimes fissures pour ne pas passer à travers la glace, là où elle est prête à céder. Tomber dans l'eau mènerait à une mort immédiate, c'est sûr, mais être simplement mouillé, avoir une jambe immergée, conduirait en peu de temps à la même fin. En progressant ainsi, très prudemment, le musher parvient à sortir de la zone risquée. Il pense pouvoir souffler, mais alors que le plus difficile était fait, ses deux chiens de tête s'effondrent. Leur ventre, moins protégé par des poils épais que le reste du corps, a gelé. L'attelage perd deux chiens et Evans sent son moral filer. S'il se laisse abattre ici, c'en est fini. Alors, l'homme prend lui-même la tête de ses chiens pour les aider à avancer, pour sauver sa peau aussi. La course au sérum a commencé depuis 3 jours. Nous sommes le 30 janvier. Un homme, l'inquiétude grandit. À bout de force, Evans arrive enfin au relais suivant. Ses chiens et lui-même ne tiennent plus debout. Pas le temps de se plaindre. Jack Nicolai, le musher suivant, l'attend et récupère le sérum. Il connaît bien son territoire et sait aussi quel danger le guette sur son parcours. Ce n'est cette fois ni le froid, ni l'épuisement, mais un ennemi perfide, imprévisible, vicieux parfois. Vous avez une idée ? Les hommes. Les hommes, ce sont eux qui inquiètent le relayeur. Jack Nicolai va passer de cette aire boisée à une zone désolée de glace et de neige, mais il va surtout devoir franchir une frontière. Celle qui sépare les peuples de la côte des populations de ces régions. Cette ligne invisible qui marque la limite entre les deux territoires est un col exposé au vent et aux envies guerrières. L'endroit est réputé dangereux car des tribus s'y sont déjà affrontées à plusieurs reprises. Mais c'est le seul passage possible. Nicolai avance, guette le moindre signal d'alerte. Un craquement de branches, des bruits de pas étouffés. Quand il aperçoit la lumière de la lanterne du refuge de la vieille femme de l'autre côté du col, il sait que le ciel est avec lui aujourd'hui. Il a réussi. Son devoir est accompli. Dans la cabane, il fait du feu, respire un peu mieux et attend le musher suivant. Victor Anagic n'est pas encore au rendez-vous. Ce musher, comme tous les autres, est rempli de fierté à l'idée de participer à cette chaîne humaine, mais dans la nuit sombre. Il a le ventre serré, car il se rappelle les histoires de sa tribu que l'on raconte le soir, dans l'intimité des cabanes. Celles des hommes qui sont partis chasser dans la montagne et qui ne sont jamais revenus, car ils sont tombés dans une embuscade tendue par l'ennemi. Alors, quand il voit lui aussi la lanterne du refuge briller dans l'obscurité, il est soulagé. Les deux hommes réchauffent le sérum ensemble au-dessus du feu. Et devant les flammes dansantes de l'âtre, ils oublient qu'ils appartiennent à des tribus qui se sont déjà fait la guerre. Seul compte la réussite de la course. L'envie de sauver un homme est plus forte que leur ressentiment ennemi.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache vous entraîne au fin fond de l'Alaska, dans une course haletante, emmenée par des mushers et leurs chiens, lancés contre un chrono impitoyable. L'enjeu est hors norme, car il y a toute une ville à sauver. Nome, atteinte par une épidémie de diphtérie qui s'étend et s'étend encore. Le seul espoir de renvoyer ce spectre noir dans les ténèbres est un sérum, l'antitoxine, qui soigne cette maladie. Mais l'isolement, la distance à parcourir, les conditions climatiques, un froid extrême, des vents violents sont autant d'obstacles presque insurmontables. Chaque relais est une épreuve. En ce mois de janvier 1925, plus le temps passe, plus les morts se comptent. Des enfants pour la plupart. Je vous raconte aujourd'hui comment des mushers à l'autre bout du monde, dans un univers quasi bichrome, ont tout tenté pour les sauver. Sur la carte, à l'est, des mushers courent en fixant l'horizon. À gauche, 400 kilomètres plus à l'ouest, à Nome, le nombre de cas de malades atteints par la diphtérie ne cesse d'augmenter et le docteur Welch n'a même plus de sérum périmé à administrer à ses patients. La presse, elle, a compris la bonne affaire. Les journalistes ont très peu de renseignements précis. Seuls quelques messages télégraphiés font état de la progression des mushers et de la situation. Mais les éditeurs n'ont que faire de l'approximation, du manque d'informations. Ils lancent à la volée leurs titres les plus vendeurs. La terreur s'abat sur l'Alaska. L'épidémie fait des centaines de morts. Aidez nos enfants, crie Nome. Les journalistes assaisonnent l'affaire pour qu'on s'arrache leurs papiers. Dans les années 1920, la presse à scandale fait ses premiers pas et cette épidémie de diphtérie est un sujet en or pour faire des une à sensation. Il n'y a aucune photo en provenance de Nome ? Oh ben pas de problème, les éditeurs en inventent. Sous les titres, on publie des clichés noirs et blancs de petits cercueils en planches et de familles éplorées. De la misère, des morts, une course contre la montre, les rotatives d'imprimerie chauffent et les éditeurs se frottent les mains. Nous sommes maintenant le 31 janvier. En un peu plus de 3 jours, le sérum a parcouru la moitié du trajet. Bientôt, un musher parti de l'Est devrait croiser la piste de Leonard Cepala, parti de Nome. Mais on est sans nouvelles de lui. Faute de moyens de communication, personne ne sait où il se trouve. A-t-il fait courir ses chiens sans faire de pause comme il l'avait annoncé? Comment a-t-il progressé seul? Fatigué. Le danger est réel, car Cepala ignore que des mushers se sont relayés pour lui apporter le sérum. Il croit qu'il doit faire seul tout le trajet, et il avance sans guetter. Si les deux hommes venaient à se croiser sans se voir, la jonction échouerait, et le sérum ne pourrait pas être transmis. Ce serait une catastrophe. Les deux mushers doivent impérativement emprunter la même piste pour se rencontrer. Henri Ivanov, le 17e musher, charge le sérum à Chaktoulik ce 31 janvier. Les deux hommes ne le savent pas, mais seuls quelques centaines de mètres les séparent. À la sortie du petit village côtier, Ivanov, concentré sur son attelage, ne voit pas Cepala qui file droit devant lui. L'histoire est suspendue à ce regard porté dans la mauvaise direction. Imaginez-vous. Un seul angle de vision pourrait rendre vain tous les efforts surhumains fournis. En tournant la tête, Ivanov distingue une silhouette courbée à l'arrière d'un traîneau filant à toute allure vers l'est. Et là, il comprend, c'est Cepala. Et c'est presque un miracle, à graver dans la neige, témoin de l'échange. Le sérum passe d'un traîneau à l'autre et Cepala, chargé cette fois de l'antitoxine, fait demi-tour pour retourner à Nome. Cela fait déjà 3 jours que ses chiens courent dans le froid, mais plutôt que de leur accorder une pause, il songe au détroit de Norton qu'il pourrait traverser au lieu de longer la côte pour raccourcir la distance à parcourir. C'est un passage de 35 km sur des glaces instables et le vent a forci. Le gouverneur a ordonné de privilégier la sécurité sur la rapidité. Le sort de tout Nome en dépend. Oui, mais alors que faire? Cepala doit-il prendre ce risque? Le musher choisit de désobéir à la consigne et il lance son équipage sur cette angoissante étendue blanche. À tout moment, le vent peut détacher une plaque de glace et la séparer du reste de la banquise. Cepala sait que des pêcheurs esquimaux ont récemment été pris au piège de cette façon et qu'ils ont dérivé seuls un mois entier. Alors il guette les craquements, mais il n'entend que le vent assourdissant et s'en remet tout entier à l'instinct de Togo, son chien de tête. À la fin de la journée, le détroit est franchi. Sous ses sourcils gelés, Ses palas sourit seul à la pensée qu'il a posé un choix risqué, mais un choix gagnant. Il le sait, un bon mûcheur est celui qui estime précisément les périls, accepte une part de hasard et prend ses responsabilités. Alors pour fêter ça et souffler un peu, ses palas s'accordent une pause et met ses chiens à l'abri pour la nuit dans un chenil esquimau sur la côte. Il ne veut pas mettre ses chiens en danger par excès d'orgueil ou sentiment erroné d'invincibilité. Sans eux, c'est l'échec de la mission et une mort certaine pour lui et les enfants de Nom aussi. Mais la roue de la fortune tourne et il ne faut pas trop l'houspiller. Un spectacle surréaliste à leur réveil le lendemain le lui rappelle soudain. Toute l'étendue de glace qu'ils ont traversée la veille a disparu, emmenée vers le large. Consternation. Elle n'existe plus, là, face à eux, mais flotte quelque part en pleine mer, loin du rivage. Ses palas pensent qu'une bonne étoile est avec eux et a souhaité les épargner. Alors, malgré la tempête qui se lève, le mûcheur ordonne à ses chiens de démarrer. Et cette fois, pas question de repartir sur la banquise. Ils vont longer la côte durant 13 heures sans s'arrêter. Ses palas veut continuer jusqu'à Nom, mais dans la petite ville, on sait quels efforts il a dû fournir jusque-là et pour lui épargner le dernier tronçon, on a demandé à deux mûcheurs frais de le couvrir. Le deuxième, Gunnar Kaasen, n'a pas de chien à lui et a demandé à la femme de ses palas de lui en prêter. Les meilleurs chiens sont avec leur maître. Qu'importe. Pour cette mission, Kaasen fait confiance à Balto. Loin de faire l'unanimité, c'est un chien de transport, pas un chien de course. Il n'a ni l'expérience, ni la rapidité d'un vrai chien de tête. Pourtant, Balto, c'est ce seul nom-là que l'histoire retiendra. Le 1er février à 22h, Kaasen décharge du sérum à l'avant-dernier relayeur et donne le signal du retour à son équipage. Ce sont les derniers kilomètres d'étendue blanche à parcourir pour atteindre Nom. Mais les conditions sont terrifiantes. Les congères montent jusqu'au ventre des chiens. Le vent est si violent que les ordres donnés par le mûcheur ne parviennent plus à Balto. L'obscurité et les bourrasques de neige empêchent Kaasen de voir son attelage. Il ne devine que le nez de son traîneau. Et sur une ornière de neige durcie, c'est l'incident redouté. L'attelage se renverse. Heureusement, Kaasen n'est pas blessé. Il se relève, mais reste pétrifié. Il n'y a plus trace d'aucun paquet sur le traîneau. Où est passé le sérum? Le colis est-il tombé plus tôt sur la piste sans qu'il ne s'en aperçoive? Ou vient-il de verser dans la neige? Kaasen, comme fou, retire ses gants pour fouiller la neige à main nue. Le blizzard se déchaîne. La visibilité est nulle, mais le mûcheur sent quelque chose de dur sous ses doigts. Sauvé, sauvé. C'est l'emballage, ficelé, durci. Ce 2 février 1925, à l'aube naissante, un homme traverse le village de Nom, emmitouflé, blanc de la tête aux pieds. Il frappe à la porte du docteur Welch, un précieux paquet dans les mains. C'est l'antitoxine qui a quitté Nenana 5 jours plus tôt. Cet homme, c'est Kaasen. Un dernier mûcheur, Edron, aurait dû prendre son relais, mais Kaasen ne s'est pas arrêté. Il l'a privé de cette occasion et a continué jusqu'à Nom. Pour gagner du temps, ou alors pour être reçu en héros sauveur, chacun aura sa petite idée là-dessus. Si Kaasen espérait la gloire, il ne s'est pas trompé. Dans les jours qui suivent son arrivée, la presse n'a Dieu que pour lui et son chien Balto. Les autres mûcheurs et leur équipage n'existent plus. L'Amérique ne retient que 2 héros. Même Sepala et Togo, qui ont parcouru la plus longue et la plus difficile étape de cette course, sont oubliés. La scène de l'arrivée est reconstituée et filmée. Les cinémas de tout le pays projettent ces images en noir et blanc. Une ville délivrée du mal, une mission accomplie. Rester en retrait de ce battage médiatique, c'est pas là est amer. Un tocard a éclipsé son extraordinaire Togo. C'est à lui et à l'ensemble des chiens que devaient revenir les honneurs. Seul Balto aura sa statue à New York et un film à son nom, produit par un Spielberg peu soucieux de rétablir la vérité. Par chance, l'essentiel est là. Nome a été sauvé. En 2023, la petite ville n'est toujours pas facilement accessible. Pour circuler, ses habitants ne peuvent profiter d'aucune route ni ferry régulier. Pour certains, la motoneige a remplacé les chiens. D'autres attendent le passage des navires de croisière, mais si la diphtérie était encore une maladie redoutable dans la première moitié du XXe siècle, aujourd'hui, elle ne tue presque plus. Voilà une course folle au sérum dont chaque relais, chaque mètre parcouru, a autant compté que la ligne d'arrivée. 20 mushers, plus de 150 chiens. Si un seul d'entre eux avait échoué, je n'aurais pas pu vous raconter cette belle histoire aujourd'hui. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Caroline Huppé.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.